Vous allez entendre trois enregistrements correspondant à trois documents différents. Pour le premier et le deuxième document, vous avez 30 secondes pour lire les questions, une première écoute, puis 30 secondes de pause pour répondre aux questions, une seconde écoute, puis une minute de pause pour compléter vos réponses.
Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l'information demandée. Exercice 1.
Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez.
Exercice 1.
Dis donc, Jeanne, tu as déjà entendu parler des objets connectés?
Oui, ce sont des capteurs de mouvement, de température. Mon frère a acheté une brosse à dents connectée.
Voilà, c'est ça. Eh bien, j'ai découvert le week-end dernier au salon de la domotique ce qu'on appelle Mother, la mère des objets connectés.
C'est quoi ça?
En fait, au lieu d'acheter plusieurs objets connectés, elle permet de transformer presque n'importe quel objet chez soi en objet connecté.
Génial! Et comment ça fonctionne?
Eh ben, la Mother se branche sur la box Wi-Fi de ton domicile et tu places sur tous les objets que tu veux connecter des petits capteurs qu'on appelle motion cookies.
Donc par exemple, si je place un cookie sur ma porte d'entrée, je sais quand quelqu'un ouvre la porte?
Exactement! Moi, j'ai eu l'idée de placer un cookie sur le cartable de mon fils pour savoir à quel moment il quitte la maison et à quel moment il rentre du lycée.
Ah oui, mais tu peux géolocaliser une personne avec les cookies?
Non, ça c'est pas possible. Je sais juste quand il entrera ou sortira parce que la Mother est à la maison.
Mais comment tu es mis au courant de ces mouvements?
À chaque mouvement, tu reçois une notification sur ton mobile. Ça va même plus loin. Tu peux aussi mettre des cookies sur ta cafetière pour surveiller ta consommation de café, sur une bouteille d'eau pour te forcer à boire suffisamment ou sur une boîte de médicaments pour être certain de ne pas oublier de les prendre.
Eh ben dis donc, et qui a inventé cette mère des objets connectés?
Eh bien, c'est un Français.
Exercice 1.
Dis donc, Jeanne, tu as déjà entendu parler des objets connectés?
Oui, ce sont des capteurs de mouvement, de température. Mon frère a acheté une brosse à dents connectée.
Voilà, c'est ça. Eh bien, j'ai découvert le week-end dernier au salon de la domotique ce qu'on appelle Mother, la mère des objets connectés.
C'est quoi ça?
En fait, au lieu d'acheter plusieurs objets connectés, elle permet de transformer presque n'importe quel objet chez soi en objet connecté.
Génial! Et comment ça fonctionne?
Eh ben, la Mother se branche sur la box Wi-Fi de ton domicile et tu places sur tous les objets que tu veux connecter des petits capteurs qu'on appelle motion cookies.
Donc par exemple, si je place un cookie sur ma porte d'entrée, je sais quand quelqu'un ouvre la porte?
Exactement! Moi, j'ai eu l'idée de placer un cookie sur le cartable de mon fils pour savoir à quel moment il quitte la maison et à quel moment il rentre du lycée.
Ah oui, mais tu peux géolocaliser une personne avec les cookies?
Non, ça c'est pas possible. Je sais juste quand il entrera ou sortira parce que la Mother est à la maison.
Mais comment tu es mis au courant de ces mouvements?
À chaque mouvement, tu reçois une notification sur ton mobile. Ça va même plus loin. Tu peux aussi mettre des cookies sur ta cafetière pour surveiller ta consommation de café, sur une bouteille d'eau pour te forcer à boire suffisamment ou sur une boîte de médicaments pour être certain de ne pas oublier de les prendre.
Eh ben dis donc, et qui a inventé cette mère des objets connectés?
Eh bien, c'est un Français.
Exercice 2.
Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez.
Exercice 2.
Isabelle Guy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de l'unité sommeil au service hospitalier de Belfort-Montbéliard. Le soleil est-il bénéfique pour notre santé?
Oui. Dès que la bonne saison est de retour, notre comportement change et ces modifications nous sont très favorables. Le fait d'avoir de la lumière et une température extérieure agréable nous donne envie de sortir plus, de pratiquer plus d'activités physiques.
Est-ce que c'est vrai que le soleil permet d'éviter la déprime?
Effectivement. À l'inverse, le manque de lumière peut provoquer des dépressions. C'est ce qu'on appelle les troubles affectifs saisonniers. On peut les guérir par un traitement par la lumière. C'est la photothérapie thérapeutique.
On constate qu'il y a plus de personnes qui font des dépressions dans les pays où il y a peu de lumière. Cela a donc une grande influence sur notre morale, sur notre façon de vivre?
Bien sûr. Dans les régions qui ont peu d'exposition solaire, ce trouble est fréquent et il va se traduire par une perte d'énergie et un manque d'envie de faire des choses. Ça peut être grave, car on dort moins bien et cela a des conséquences sur notre santé.
Il existe aussi des traitements par luminothérapie avec des lampes.
Oui, nous utilisons les lampes de photothérapie. Ce sont des lampes qui produisent une lumière spécifique. On peut en trouver chez les vendeurs de matériel médicaux. Nous devons utiliser la photothérapie avec les patients très tôt le matin pour avoir un effet bénéfique. Ainsi, on améliore la performance du sommeil.
Est-ce qu'il est nécessaire de faire des cures de magnésium ou de vitamine C?
En dehors de la vitamine D, je ne prescris pas beaucoup de substituts de vitamines. L'alimentation fournit l'essentiel de nos besoins en vitamines et en été, nous avons accès à des aliments riches, vitaminés, qu'on va pouvoir manger crus. C'est-à-dire qu'on ne va pas détruire les vitamines qui sont dans les végétaux.
Merci, docteur Guy. Pour conclure, je crois que nous pouvons dire « Vive le soleil, vive la lumière !»
Tout à fait. Exercice 2.
Isabelle Guy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de l'unité sommeil au service hospitalier de Belfort-Montbéliard. Le soleil est-il bénéfique pour notre santé?
Oui. Dès que la bonne saison est de retour, notre comportement change et ces modifications nous sont très favorables. Le fait d'avoir de la lumière et une température extérieure agréable nous donne envie de sortir plus, de pratiquer plus d'activités physiques.
Est-ce que c'est vrai que le soleil permet d'éviter la déprime?
Effectivement. À l'inverse, le manque de lumière peut provoquer des dépressions. C'est ce qu'on appelle les troubles affectifs saisonniers. On peut les guérir par un traitement par la lumière. C'est la photothérapie thérapeutique.
On constate qu'il y a plus de personnes qui font des dépressions dans les pays où il y a peu de lumière. Cela a donc une grande influence sur notre morale, sur notre façon de vivre?
Bien sûr. Dans les régions qui ont peu d'exposition solaire, ce trouble est fréquent et il va se traduire par une perte d'énergie et un manque d'envie de faire des choses. Ça peut être grave, car on dort moins bien et cela a des conséquences sur notre santé.
Il existe aussi des traitements par luminothérapie avec des lampes.
Oui, nous utilisons les lampes de photothérapie. Ce sont des lampes qui produisent une lumière spécifique. On peut en trouver chez les vendeurs de matériel médicaux. Nous devons utiliser la photothérapie avec les patients très tôt le matin pour avoir un effet bénéfique. Ainsi, on améliore la performance du sommeil.
Est-ce qu'il est nécessaire de faire des cures de magnésium ou de vitamine C?
En dehors de la vitamine D, je ne prescris pas beaucoup de substituts de vitamines. L'alimentation fournit l'essentiel de nos besoins en vitamines et en été, nous avons accès à des aliments riches, vitaminés, qu'on va pouvoir manger crus. C'est-à-dire qu'on ne va pas détruire les vitamines qui sont dans les végétaux.
Merci, docteur Guy. Pour conclure, je crois que nous pouvons dire « Vive le soleil, vive la lumière !»
Tout à fait. Exercice 3.
Vous avez une minute pour lire les questions ci-dessous. Puis, vous entendez une première fois un document. Ensuite, vous avez 3 minutes pour répondre aux questions. Vous écoutez une seconde fois le document. Après la seconde écoute, vous avez encore 2 minutes pour compléter vos réponses.
Pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse ou écrivez l'information demandée.
Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez.
Exercice 3.
Imaginez notre futur. Bientôt, nous n'aurons plus besoin de marcher, nous nous déplacerons avec des appareils autonomes, nous n'aurons plus besoin de faire le ménage, les robots le feront pour nous, nous n'aurons plus besoin de voir nos amis, on pourra passer du temps avec eux via écran interposé. Hélas, il ne s'agit pas de notre futur, mais bien de notre présent. Transposés dans l'avenir, puissance 10, tous ces objets connectés ne risquent-ils pas de nous rendre asociaux ? Je vais peut-être un peu loin dans la réflexion, mais je pense que ces risques sont réels. Les risques pour la santé, d'abord, car à force de ne rien faire, on finit par grossir. Les risques pour la vie sociale, ensuite, avec des écrans partout, finies les relations sociales basées sur l'échange. Et ce n'est pas tout, ces objets connectés enregistrent de nombreuses informations sur notre santé, nos habitudes de consommation, nos modes de vie, c'est-à-dire sur notre vie privée. Que se passerait-il, par exemple, si vos résultats d'analyse médicale étaient accessibles à tous, ou si votre présence à la maison était détectée ? On peut aussi s'interroger sur la possible évolution des objets connectés. Seront-ils un jour directement reliés à notre cerveau ? Pourront-ils prévenir tous nos besoins avant même que nous ne les détections ? De façon générale, si les humains ne prennent plus aucune décision face à des machines qui préviennent tous leurs désirs, ne risque-t-on pas de devenir stupide ? Morozov, écrivain et chercheur biélorusse, différencie bonne et mauvaise intelligence. Pour lui, la bonne intelligence serait celle qui nous laisse le contrôle de la situation et nous apporte des éléments pour nous aider à éviter les erreurs. Les technologies intelligentes ne devraient pas trouver les solutions pour nous, elles devraient nous aider à résoudre les problèmes. Actuellement, les nouvelles technologies ne viennent pas nous aider, elles pensent pour nous, et pire encore, elles déterminent quels sont les comportements acceptables ou non. À mesure qu'elles deviennent plus intrusives, les technologies intelligentes risquent de toucher à notre autonomie en supprimant des comportements que quelqu'un, quelque part, aura désignés comme indésirables. Les fourchettes intelligentes nous informent que nous mangeons trop vite, les brosses à dents intelligentes nous incitent à passer plus de temps à nous brosser les dents, etc. Le risque, c'est donc la perte d'autonomie et la pauvreté intellectuelle. N'est-ce pas en faisant des erreurs que nous nous améliorons? N'est-ce pas en faisant des erreurs que nous innovons? Tout artiste ou chercheur le sait, sans un espace protégé où l'erreur est possible, l'innovation cesserait d'exister. Voilà, tout est dit.
Exercice 3.
Imaginez notre futur. Bientôt, nous n'aurons plus besoin de marcher, nous nous déplacerons avec des appareils autonomes, nous n'aurons plus besoin de faire le ménage, les robots le feront pour nous, nous n'aurons plus besoin de voir nos amis, on pourra passer du temps avec eux via écran interposé. Hélas, il ne s'agit pas de notre futur, mais bien de notre présent. Transposés dans l'avenir, puissance 10, tous ces objets connectés ne risquent-ils pas de nous rendre asociaux? Je vais peut-être un peu loin dans la réflexion, mais je pense que ces risques sont réels. Les risques pour la santé d'abord, car à force de ne rien faire, on finit par grossir. Les risques pour la vie sociale ensuite, avec des écrans partout, finies les relations sociales basées sur l'échange. Et ce n'est pas tout, ces objets connectés enregistrent de nombreuses informations sur notre santé, nos habitudes de consommation, nos modes de vie, c'est-à-dire sur notre vie privée. Que se passerait-il, par exemple, si vos résultats d'analyse médicale étaient accessibles à tous, ou si votre présence à la maison était détectée? On peut aussi s'interroger sur la possible évolution des objets connectés. Seront-ils un jour directement reliés à notre cerveau? Pourront-ils prévenir tous nos besoins avant même que nous ne les détections? De façon générale, si les humains ne prennent plus aucune décision face à des machines qui préviennent tous leurs désirs, ne risque-t-on pas de devenir stupide? Morozov, écrivain et chercheur biélorusse, différencie bonne et mauvaise intelligence. Pour lui, la bonne intelligence serait celle qui nous laisse le contrôle de la situation et nous apporte des éléments pour nous aider à éviter les erreurs. Les technologies intelligentes ne devraient pas trouver les solutions pour nous, elles devraient nous aider à résoudre les problèmes. Actuellement, les nouvelles technologies ne viennent pas nous aider, elles pensent pour nous, et pire encore, elles déterminent quels sont les comportements acceptables ou non. À mesure qu'elles deviennent plus intrusives, les technologies intelligentes risquent de toucher à notre autonomie en supprimant des comportements que quelqu'un, quelque part, aura désignés comme indésirables. Les fourchettes intelligentes nous informent que nous mangeons trop vite, les brosses à dents intelligentes nous incitent à passer plus de temps à nous brosser les dents, etc. Le risque, c'est donc la perte d'autonomie et la pauvreté intellectuelle. N'est-ce pas en faisant des erreurs que nous nous améliorons? N'est-ce pas en faisant des erreurs que nous innovons? Tout artiste ou chercheur le sait, sans un espace protégé où l'erreur est possible, l'innovation cesserait d'exister. Voilà, tout est dit.
L'épreuve de compréhension orale est terminée. Passez maintenant à l'épreuve de compréhension écrite.